Wunderparlement.
Wunderparlement.
Yes, do you have my voice?
Wunderparlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il presidente.
Uccia radio.
Apprendi a faire radio.
Leer radio maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento Europeo de Strasburgo.
Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi tu peux venir.
Bonjour et bienvenue dans le Wunder Parlement, l'émission qui vous fait découvrir le Parlement européen par devant, par derrière, de tous les côtés. Nous sommes le mardi 23 avril 2024 et nous avons le plaisir de recevoir Philippe Lamberts. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé du groupe des Verts et coprésident de ce groupe et vous terminez votre troisième mandat. Nous sommes également en compagnie de Lisa, Elena et Anna, les membres du Wunder Parlement ou l'école de la radio. On découvre la radio, les podcasts, le Parlement européen et les eurodéputés. Et donc, nous recevons Philippe Lamberts, notamment pour parler du pacte de stabilité qui semble être le diable pour certains eurodéputés. On attaque bientôt l'interview.
Hello, welcome to the
Wunder Parlement.
Sans plus tarder, la parole au rapporteur.
Et on va discuter du futur de l'Europe.
Ah ben maintenant, c'est l'interview.
Alors Philippe Lamberts, peut-être pouvons-nous essayer tout d'abord de vous présenter. Qui êtes-vous ? Alors vous n'êtes pas français déjà. Lamberts, c'est flamand pourtant.
C'est un non-flamand, oui, mais je suis un francophone de Belgique. Voilà, ça illustre le brassage culturel en Belgique. Si je remonte du côté de mon père de trois générations, c'était des agriculteurs flamands de la région entre Bruxelles et Anvers. Du côté de ma maman, c'est clairement des francophones. Et donc voilà, tout ça a fait de moi un francophone qui aujourd'hui est député européen.
Et bah, vous êtes écolo belge, mais écolo pas forcément au sens où on peut l'imaginer. Hein. Vous êtes, vous n'êtes pas un hippie dans le Larzac qui élève des chèvres pour en manger leur fromage. Vous avez une carrière qui a commencé autrement, peut-être. Est-ce que vous avez envie de nous raconter un peu votre parcours ?
Écoutez, je suis écolo depuis 33 ans, mais avant ça, j'ai commencé ma carrière dans le secteur privé. Pendant 18 ans, j'ai mené les deux de front. Et puis voilà, en 2009, ce qui était mon hobby, la politique est devenue mon métier. Mais en effet, j'ai une carrière dans le secteur privé, dans l'informatique. Voilà quoi. Maintenant, honnêtement dit, le modèle hippie sur le Larzac, c'est un peu daté, excusez-moi, mais je pense que ça remonte à peu près à un demi-siècle. Je pense que la famille de l'écologie politique ne correspond pas toujours aux clichés qu'on veut bien lui coller sur le dos.
Tout à fait, vous avez absolument raison. Hein, on peut peut-être noter quelques faits d'armes politiques hein, dans ce Parlement européen où vous co-présidez le groupe des Verts. Hein. On peut se rappeler, par exemple, en 2018, un merveilleux discours contre notre président Emmanuel Macron.
Alors, c'était pas contre, c'était face à, ce n'est pas la même chose. Mais je me rappelle en tout cas de ce moment, et c'était marrant parce que Macron était élu depuis un peu moins d'un an, hein, je pense. Il était élu quoi, en mai 2017 ? On était en avril 2018, et je sais qu'à l'époque, la manière dont je l'ai challengé, on va dire, a fait soulever quelques sourcils, non seulement dans mon groupe politique, mais dans d'autres, en trouvant que j'y allais un peu fort. Je pense que les mêmes aujourd'hui me diraient que je n'y étais pas allé assez fort et que j'étais en dessous de la réalité. Je pense que le Macron que je détectais s'est révélé à l'usage. Et voilà, ben aujourd'hui, on a un président qui se fait le marchepied de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans ce pays, et je pense que c'est inquiétant.
Malheureusement, l'extrême droite, c'est pas seulement en France qu'elle pointe le bout de son nez. On reparlera peut-être des élections à venir avec les sondages qui donnent l'extrême droite grande favorite pour l'heure. Mais l'idée aujourd'hui, peut-être, c'est d'expliquer pédagogiquement, en prenant le temps, le pacte de stabilité. Qu'est-ce que c'est ce machin ? À quoi ça correspond ? Hein ? Alors, on peut peut-être imaginer que ce sont que des chiffres. Mais est-ce que vous pouvez, Philippe Lamberts, nous expliquer c'est quoi le pacte de stabilité et peut-être de croissance
Oui, c'est ce qu'on raconte. Mais bon, bref, l'Union européenne a décidé, à la fin des années 90, de se doter d'une monnaie unique, l'euro. Et donc, on a décidé en Europe de fédéraliser, si vous voulez, la monnaie et donc la politique monétaire. Nous avons une seule monnaie qui est partagée par presque tous les États membres, pas tous, mais en tout cas par presque tous les États membres. Et donc, nous avons une banque centrale à laquelle est adossée cette monnaie. Lorsque vous menez de la politique économique, il y a essentiellement deux grands leviers qui sont actionnables. La politique monétaire, je viens d'en parler, c'est-à-dire le taux de change de la monnaie, les taux d'intérêt. Et d'autre part, la politique budgétaire, c'est-à-dire la manière dont les États utilisent la dépense publique pour stimuler ou au contraire ralentir l'activité économique. On est dans une situation en Europe qui est un petit peu un entre-deux, puisqu'on a fédéralisé, au sens premier du terme, on a vraiment amené à un niveau fédéral la politique monétaire, mais la politique budgétaire est restée nationale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? L'idée qui a été retenue à l'époque, c'est en tout cas de se donner des règles budgétaires communes pour que les États membres ne fassent pas de bêtises en termes de dépenses publiques, ce qui pourrait avoir pour conséquence d'affaiblir la monnaie commune. Donc, a priori, l'idée a du sens. Alors, ce qui aurait encore plus de sens, c'est de se doter d'une politique budgétaire commune, c'est-à-dire, en fait, de renforcer substantiellement le budget européen pour qu'on puisse actionner les deux leviers, monétaire et budgétaire, au niveau européen. Mais pratiquement, le budget européen est un petit ersatz de budget, hein, c'est à peine 1% du produit intérieur brut de l'Union, alors que dans les pays fédéraux, comme l'Allemagne, les États-Unis, etc., le budget fédéral, il peut faire 20-25% du produit intérieur brut. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est doté de règles budgétaires communes. Le gros problème qu'on a eu à l'époque, c'est que ces règles budgétaires ont été basées sur des chiffres, parce qu'en effet, c'est une affaire de chiffres, qui ont été même inscrits dans les traités de l'Union européenne. À savoir, la règle numéro un, c'est que les déficits publics, c'est-à-dire la différence entre dépenses et recettes, ne peut pas excéder, en cas de déficit, 3% du PIB, et la dette, le stock de dette, là on parle bien d'un stock, pas d'un flux, le stock de dette ne peut pas excéder 60% du PIB. Alors je le dis tout de suite, ces deux chiffres n'ont aucune, je dis bien aucune base scientifique. Ce sont en fait deux valeurs qui, à l'époque où on a signé la décision de faire la monnaie unique, étaient les valeurs à peu près moyennes observées dans l'Union européenne. Mais donc, je dis et je répète, ces deux chiffres, malgré le fait qu'ils ont été inscrits dans les traités, n'ont aucune base scientifique. Autrement dit, on peut se retrouver avec des déficits plus faibles et être dans une situation budgétaire intenable parce que ces déficits ne financent pas les bonnes choses. On peut se trouver avec une dette qui fait le triple des 60% indiqués et néanmoins se trouver dans une situation budgétaire tenable, tout simplement parce que la dette elle est utilisée à bon escient et elle est financée domestiquement. Le problème, c'est que ces chiffres ont depuis fait l'objet d'une forme de fétichisme de la part d'une bonne partie des décideurs politiques européens. Et donc, c'est l'obsession de ceux qu'on appelle les frugaux, ce qu'on devrait appeler les talibans de la discipline budgétaire. Ils en ont fait une obsession pour montrer que, en réalité, un État bien tenu est un État qui gère ses déficits et ses dettes. A priori, je ne suis pas contre. Mais prenons l'Allemagne, qui est un petit peu le cas d'école. Là, la discipline budgétaire a fait l'objet d'une inscription dans la Constitution, au point que les déficits sont virtuellement interdits. D'accord ? L'Allemagne se targue de présenter des budgets à l'équilibre presque systématiquement. Alors, petit détail. Un, l'équilibre est obtenu souvent en retirant des budgets de l'État en mettant une série de dépenses publiques hors budget, ce qui sont des artifices comptables. Alors ça, c'est ce que la Cour constitutionnelle allemande a retoqué il y a quelque temps. Mais surtout, quel est le résultat ? Ils affichent peut-être des budgets en équilibre, mais le matériel de la Bundeswehr, l'armée allemande, est impropre à l'usage. Des milliers de ponts en Allemagne menacent ruine. Ils ont passé un temps fou à essayer de finir un aéroport. C'est presque leur Flamanville à eux, l'aéroport de Berlin. Flamanville étant ce projet de centrales nucléaires qu'EDF ne parvient pas à finir depuis une douzaine d'années. Et donc, c'est bien beau d'avoir un budget en équilibre, mais si l'Allemagne est à la traîne en matière d'investissement, c'est devenu presque un running gag que quand nous avons des conférences, ça a commencé à l'époque de la pandémie, lorsqu'on a des visioconférences avec nos collègues allemands qui sont en Allemagne, on rigole toujours parce qu'ils doivent couper la vidéo tant la bande passante ne permet pas d'avoir des visios convenables. Donc tout le monde rigole de l'infrastructure numérique en Allemagne. On s'est gaussé du fait que la Bundeswehr utilise encore le fax pour communiquer entre les unités, les dépôts, etc. Allez, franchement, faut pas rigoler. Donc faire de l'idolâtrie de chiffres budgétaires n'amène pas nécessairement de bons choix politiques. Comme quoi d'ailleurs, s'affranchir de toute discipline budgétaire ne mène pas nécessairement à des bons choix non plus. Et donc la question c'est, quelles règles devons-nous nous imposer pour garantir la solidité de nos finances publiques?
Mais avant d'évoquer les nouvelles règles, mais est-ce que ce pacte de stabilité est véritablement respecté? Tout le monde dépasse les quotas imposés, les sanctions ne sont pas appliquées. Est-ce que ces règles sont véritablement utilisées?
Alors, de toute façon, ces dernières années, depuis la pandémie, on les a suspendues. Donc, je veux dire qu'on ne les ait pas respectées, ça semble assez logique puisqu'on les a suspendues. Par ailleurs, précédemment, dans la période précédente, bien sûr qu'on ne les a pas respectés à la lettre. Mais ce qui compte, c'est est-ce qu'on a essayé de les respecter? La réponse est oui. Donc on a pratiqué des politiques d'austérité budgétaire, de coupes dans les dépenses. On a pratiqué des politiques visant à déréguler le marché du travail, réduire la couverture de la sécurité sociale, faire des réformes fiscales anti-redistributives. C'est ce qu'on a fait pendant plusieurs décennies. Alors, ce n'est pas parce que vous n'atteignez pas même si vous n'atteignez pas vos objectifs, qui sont ces deux chiffres inscrits dans les traités, vous pouvez faire énormément de dégâts, et c'est ce qu'on a fait. Et les nouvelles règles, ça va être le même effet. On va constater dans quelques années qu'on ne les respectait pas, mais en attendant, les dégâts auront été produits sur nos investissements publics en particulier.
Alors, en ce mardi 23 avril 2024, de nouvelles règles du pacte de stabilité ont été votées au Parlement européen, Philippe Lamberts, lesquelles ?
Alors d'abord, permettez-moi de vous dire que j'étais en plénière ce matin lorsqu'on a eu le débat là-dessus, et j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans un roman de George Orwell. C'est-à-dire qu'il y avait là deux commissaires européens, il y avait des représentants du groupe PPE, donc les Républicains en France, du groupe socialiste, du groupe libéral, vantaient ces nouvelles règles en nous disant qu'elles créaient de l'espace pour l'investissement, pour les politiques sociales. Mon cœur en pleurait presque. Sauf que c'est faux. Je vais dire, c'est comme, c'est la perversion du langage que dénonce Orwell. Vous savez, la liberté, c'est la servitude, la paix, c'est la guerre. Les mots ne veulent plus rien dire pour eux. En réalité, je mets au défi n'importe quel économiste, un tant soit peu sérieux, de me montrer où est, dans les nouvelles règles, le moindre espace d'investissement pour les États membres. Résumons. Rien que pour le défi climatique, donc les investissements à faire pour assurer la transition verte, les États membres de l'Union européenne vont devoir mobiliser des investissements supplémentaires, donc en plus de ce qu'on fait pour le moment, à hauteur de 2,6% du PIB, dont 1,6% devrait être réalisé par le secteur public. D'accord ? Donc, on a là déjà, rien que pour le climat, des investissements publics colossaux à réaliser, en plus de tout ce que nous faisons pour le moment. Première chose. Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu'on a un conflit à nos portes, que Poutine a des volontés agressives à l'égard de son voisinage, et donc ça entraîne des besoins de renforcer notre outil de défense. On peut parler du secteur numérique. Donc je pourrais, comme ça, rajouter les besoins pressants qui se posent et l'impact qu'ils auront sur le besoin d'investissement public. D'accord ? Donc on dépasse de loin 2 points de PIB en plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Or, les règles qui ont été votées ce matin au Parlement n'ont qu'un seul objectif, réduire la dette. Vous allez dire, et alors, la question c'est quand vous devez faire à minima 2 points de PIB d'investissement en plus chaque année, comment vous allez financer ? Alors, les néolibéraux vous diront, il faut couper dans les dépenses publiques actuelles. Par exemple, la santé. Par exemple, l'éducation. Par exemple, les retraites. Et je peux continuer comme ça. Mais quand bien même on irait très fort dans ce sens-là, et c'est le risque, ben, on n'aura toujours pas les moyens dont on a besoin pour financer la transition et les autres efforts. Alors, deuxième moyen, c'est de lever l'impôt. De dire, bon, ben, si on veut faire des dépenses, il faut des recettes. Et donc, il y a peut-être des contribuables qui, aujourd'hui, ne contribuent pas beaucoup. Par exemple, les grandes sociétés, par exemple, les grands détenteurs de capitaux. Ben, il faudrait peut-être qu'ils contribuent, et c'est sûr qu'il faut le faire. Mais est-ce que ça sera assez? Probablement pas. Et donc, qu'est-ce qui reste? C'est l'emprunt. L'emprunt, c'est-à-dire le fait qu'on finance des investissements maintenant en étalant leur financement sur plusieurs années, parfois sur plusieurs dizaines d'années, ce qui n'est pas un non-sens, je vais dire. Et donc, ça, c'est l'emprunt. On va dire, ah oui, mais l'Union européenne est déjà trop endettée. C'est sûr que par rapport à la valeur de référence de 60% du PIB pour le stock de la dette inscrit dans les traités, ben, l'Union européenne, les 27 États membres, si on les prend tous ensemble, sont à peu près à 90%. Donc on va dire, c'est une fois et demie la norme. Mais sauf que la norme, je vous le rappelle, elle n'a aucune base scientifique. Donc c'est un chiffre qui est complètement arbitraire. À titre d'exemple, les États-Unis sont à un stock de 126% du PIB et la dette publique japonaise est à 263% du PIB. Donc nous, avec nos 90, ben, on n'apparaît pas nécessairement comme le cas le plus pathologique, d'accord? Et qu'est-ce qui fait que le Japon parvient à s'endetter à ce niveau-là? Ben parce qu'essentiellement, les détenteurs de titres de dette japonais sont des Japonais. Et il se fait que, en fait, le gros des détenteurs de dette européenne, c'est des Européens. Donc là aussi, on a une structure de propriété des titres de dette européenne qui est une structure largement domestique. Autrement dit, il y a de la marge. Je ne dis pas une marge infinie, mais une marge suffisante que pour financer les investissements dont je vous parlais par l'emprunt. Eh bien, figurez-vous que l'objectif unique des règles qui sont adoptées, c'est de réduire la dette. Alors, expliquez-moi, comment est-ce que vous pouvez financer la transition écologique, financer la défense, financer les infrastructures numériques en réduisant la dette? Ça, pour moi, c'est une équation que je ne vois pas comment on peut résoudre. Et donc, les premières victimes de ces règles budgétaires seront les investissements. Au moment où la Chine dépense sans compter, que les États-Unis dépensent sans compter pour leur propre transition et leurs propres efforts, et je dirais même la Russie, l'Europe dit « Ah non, on ne peut pas ». Et à ce compte-là, vous savez, si Winston Churchill, en juillet 40, avait dû décider de continuer la guerre ou de l'arrêter contre Hitler ou de rechercher un armistice sur la base de ces règles budgétaires, Winston Churchill aurait dû dire, écoutez, c'est pas que je veux pas, mais mes règles budgétaires me l'interdisent et donc nous n'avons d'autre alternative que de chercher à faire la paix avec Monsieur Hitler. C'est ce qui se serait passé en juillet 40. C'est pour vous montrer l'ineptie totale de ces règles qui sont d'abord des règles idéologiques.
Mais justement, idéologiquement, les socialistes et démocrates, le groupe socialiste et démocrate du Parlement européen, a priori un peu à gauche encore, pourtant il s'est joint à la droite, au PPE et aux libéraux de Renew pour voter ça. Comment ça fonctionne, Parlement?
En effet... Et on peut quand même souligner qu'un certain nombre de délégations socialistes, je pense aux Belges, aux Néerlandais, aux Autrichiens, à qui encore, aux Français, se sont opposés à ces règles. Ils se sont rappelés vaguement ce que ça voulait dire d'être socialiste. Mais c'est vrai que les gros bataillons des troupes socialistes ont voté ces règles. Et ça, malheureusement, ça n'est pas quelque chose de franchement nouveau. Des gouvernements socialistes qui adoptent la vision du monde économiste néolibéral, c'est pas franchement nouveau. Je veux dire, ça s'est observé un peu partout en Europe, de voir des gouvernements socialistes pratiquer des politiques néolibérales, flexibilisation du marché du travail. Est-ce que je dois vous rappeler la loi travail de François Hollande, réforme fiscale favorisant les détenteurs de capitaux, réduction de la couverture de la sécurité sociale, etc., etc., etc. C'est pas nouveau, mais apparemment, il y en a un certain nombre qui n'ont toujours pas réalisé que ce faisant, ils poussent leurs électeurs, en particulier leurs électeurs populaires, dans les bras de l'extrême droite. Voilà, mais il y en a qui réalisent toujours pas ça.
Mais et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, déjà, est-ce que ce nouveau pacte de stabilité ne sera sans doute pas respecté comme le précédent ? Donc, est-ce qu'il ne nous reste pas une marge de manœuvre véritable dans, au quotidien politique sur le budget national de chaque État ?
Mais ça dit, si une majorité d'États membres décidait d'ignorer le prescrit de ces règles et tentait de s'endetter pour financer les investissements, en effet, je voudrais bien voir ce que la Commission européenne ferait. Mais alors, expliquez-moi quel est le sens d'adopter des règles si, en fait, c'est pour se dire, dans la foulée, ne les appliquons pas. Enfin, je veux dire, autant peut-être ne pas les adopter, alors.
Lisa ?
Le pacte de stabilité, il intègre aussi une surveillance et des sanctions, justement pour que ce soit respecté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment se met en place la surveillance, quelles sont les sanctions possibles, et est-ce que ça pénalise pas finalement les pays qui sont déjà les plus en difficulté ?
Oui, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, la taille des sanctions financières était tellement élevée dans les précédentes règles qu'elles n'ont jamais été appliquées. Ici, ce sont des sanctions financièrement plus modestes et donc dont l'applicabilité devient plus vraisemblable. Ce sont des sanctions financières à la fin, mais l'Union européenne va évidemment surveiller les trajectoires budgétaires des États membres. Alors on nous vend le fait qu'elle va le regarder sur un cycle pluriannuel de 4 ou de 7 ans. C'est quand même moins grave que si elle le faisait sur un cycle annuel. Oui, je veux bien, mais c'est pas ça qui va changer fondamentalement l'équation, parce que pour un pays comme la France, dont le stock de dette dépasse 90% du PIB, elle devra réduire en moyenne son stock de dette de 1 point de PIB chaque année. Et donc, au bout de 7 ans, ça doit être moins 7%, point barre. Alors, peut-être que vous allez faire moins 0,5 la première année, mais ça veut dire que la troisième ou la cinquième, vous allez devoir faire moins 1,5. Donc, allez, franchement, allez dire que parce que vous avez un petit peu de latitude dans le temps, ça veut dire moins d'efforts. Ben non, parce que tout ce que vous n'aurez pas fait les premières années, vous allez devoir cravacher deux fois plus vite les dernières années. Donc franchement, présenter ça comme une grande victoire de la flexibilité, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, c'est une imposture intellectuelle. Et donc, il ne faut pas croire ceux qui racontent ces balivernes, franchement. Et donc, c'est bien aussi, d'ailleurs, il suffit d'écouter le discours de la droite en disant, cette fois-ci, les sanctions, elles seront applicables. Et donc, ils se réjouissent déjà qu'on tombe sur le dos des États membres qui ne respecteront pas la discipline budgétaire. Donc il faudra faire ceinture. Et je répète, je pense que dans un premier temps, les États vont au moins essayer de respecter ces règles. Et donc l'effet désastreux sur à la fois notre cohésion sociale, notre transition écologique, la compétitivité de nos économies et notre stature géopolitique, ces conséquences-là, elles se feront sentir tout de suite.
Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Quel combat à venir faut-il mener pour modifier, selon vous, Philippe Lamberts, ces règles du pacte de stabilité ?
Ben, je pense que là, le coup est parti, puisqu'il s'est trouvé une majorité au Parlement européen et il y aura une majorité, pour ne pas dire l'unanimité, au Conseil pour adopter ces règles. Donc là, c'est trop tard. On ne sait plus rien faire. Donc le mal est fait et il va porter ses impacts. Alors, certains disent, oui, mais on peut contourner ces règles puisqu'elles ne s'appliquent pas à l'Union européenne dans son ensemble. Donc, si les investissements étaient financés par l'Union, alors ça ne rentrerait pas dans les calculs. Déjà, je trouve ça une manière singulière de réfléchir. Mais oui, ça a du sens qu'une partie des investissements soit financée au niveau de l'Union. Mais politiquement, les mêmes qui ont insisté pour avoir ces règles complètement idéologiques, donc les talibans de la dette et des déficits, sont les mêmes qui disent « mais pas question, absolument pas question qu'il y ait une capacité d'investissement européenne. Nous n'en voulons ni par la porte, ni par la fenêtre ». Donc se dire qu'on va gagner politiquement cette bataille-là alors qu'on l'amène contre exactement les mêmes qui ont imposé ces règles avec succès, puisque les gouvernements, y compris socialistes en Europe, qui n'avaient aucun intérêt à accepter ces règles, les ont acceptées. Je pense au gouvernement socialiste d'Espagne, au gouvernement d'extrême droite en Italie, au gouvernement libéral en France. Ces trois gouvernements n'avaient aucun intérêt à adopter ces règles, et pourtant ils les ont adoptées. Et donc ils vont aller nous raconter maintenant qu'ils vont obtenir une capacité d'investissement européenne. Si ça, c'était vraiment leur plan, ils auraient conditionné leur accord aux règles budgétaires à l'accord de la part des talibans de mettre en place une capacité d'investissement européenne. Ici, ils ont d'abord acté leur défaite avant de dire on va partir à la reconquête. Courage, hein. Je voudrais bien savoir pourquoi la dynamique politique qui a produit ces règles budgétaires produirait quelque part son opposé lorsqu'on amènera le débat sur une capacité d'investissement européenne.
Voilà, le pacte de stabilité a été voté en ce 23 avril 2024. On en a sans doute pour quelques années. On se fait une petite pause musicale et on retrouve Philippe Lamberts, eurodéputé écolo du Parlement européen.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Jacques Brel, Jacques Brel ne veut pas qu'on le quitte, mais Philippe Lamberts va nous quitter après 3 mandats d'eurodéputé au Parlement européen entre Strasbourg et Bruxelles. L'occasion, en ce Wunderparlement du 23 avril 2024, de faire un petit tour dans le parcours de notre député belge. Peut-être, Anna, veux-tu démarrer ?
Oui, je veux bien démarrer. Je suis le représentant de jeune génération et je sais qu'on a plein d'auditeurs et auditrices qui peut-être veulent se lancer dans la politique leur-même. Alors, est-ce que, Monsieur Lamberts, vous pouvez nous dire à quel moment vous avez décidé de se lancer à la politique? Est-ce que c'était quelque chose que vous voulez toujours faire depuis enfance ou c'était un peu plus compliqué et vous un peu de retrouver votre chemin vers politique? C'était comment dans votre cas?
Alors, ma première candidature à une élection, c'était en avant-dernière année du secondaire. On établissait un conseil des élèves à l'école et j'étais candidat et j'ai été élu. Donc on peut dire que j'avais ça dans le sang. Quand je me suis retrouvé à l'université, j'ai également été élu dans les instances représentatives des étudiants. Donc la fibre politique, je l'ai toujours eue et je suis le premier de ma famille. Je veux dire, alors on s'intéressait à la politique dans la famille, mais il y avait personne qui en avait jamais fait. Mais c'est vrai que... Donc j'ai rejoint le Parti Vert Écolo en 1991, donc j'avais, 28 ans. J'en ai 61 aujourd'hui, donc ça fait 33 ans. C'est vrai que j'ai toujours de l'intérêt pour ça, mais c'est aussi vrai que, assez vite, suite à mon engagement écolo, j'ai pris la décision de ne pas briguer un poste professionnel dans la politique. Alors à l'époque, je me disais pas avant 50 ans. Ça, c'était un peu mon idée. La raison étant que je voulais arriver en politique avec un bagage professionnel de la vie réelle. Enfin, un bagage de vie, quoi, de la vie réelle. Alors, vous allez dire, oui, mais la vie politique, c'est aussi la vie réelle. Oui, la politique est un monde qui peut facilement s'affranchir des contraintes du réel. Et donc, oui, je voulais ça. Et dans la foulée, et les deux sont liés, c'est avoir une forme d'indépendance matérielle à l'égard de la politique, c'est-à-dire pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire décider volontairement de mettre un terme à mon parcours en politique en me disant, bon, ben, avec le CV qu'est le mien, je crois être capable de me retrouver un job, y compris en dehors de la politique. Voilà, donc j'ai eu assez vite la fibre politique, mais une décision consciente de ne pas en faire mon métier trop tôt dans ma vie. Alors finalement, c'est arrivé à 46 ans plutôt qu'à 50, mais c'est à peu près ça, quoi. Donc, parce que vous ne pouvez pas décider de tout dans votre vie. À un moment, des trains passent et il faut savoir si on monte dedans ou pas. Mais en tout cas, c'était ça qui présidait un peu à mes décisions, quoi.
Et vous déjà avez un peu mentionné votre valeur personnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose, quelques caractéristiques d'après vous, chaque eurodéputé devrait avoir?
Oh là là, c'est difficile. Bah, d'abord, je pense qu'il faut de la diversité. Il vaut mieux qu'on ne soit pas tous les mêmes. Par contre, il faut des valeurs partagées. Et donc ça, c'est vrai que moi, il me semble en tout cas, et je le dirai lorsque je prendrai congé de la plénière, je le dirai en plénière, c'est d'avoir comme boussole commune la dignité des êtres humains, de tous les êtres humains, pas juste de quelques êtres humains. Et donc, pour moi, ce qui importe, c'est que nous soyons bien d'accord. Vous allez dire c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais force est de constater que, d'une part, à l'extérieur de l'Union, cette dignité humaine est souvent bafouée, mais je dirais aussi aux frontières et à l'intérieur de l'Union, et notamment parfois du fait de décisions politiques prises au niveau européen. Et donc, nous devrions au moins nous mettre d'accord que notre objectif est d'assurer une dignité de vie à tous les êtres humains, en tout cas les conditions d'une vie digne à tous les êtres humains. Voilà, ça je pense que ça devrait être partagé. Après ça, la manière dont on réalise cet objectif, mais il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'y a pas qu'une seule manière d'y arriver, et ça c'est le principe du débat démocratique. C'est qu'on confronte les différentes visions, mais au moins il faudrait un socle de valeurs communes qui fournissent en fait une boussole collective à la vie politique. Et je dois constater, comme je le dis, que ces valeurs prônées dans les traités européens, elles ne sont pas toujours vraiment au cœur des politiques qui sont menées.
Merci beaucoup. Et vous n'allez pas vous présenter dans cette élection européenne. Quel est votre, comment dire, plan après? Qu'est-ce que vous allez faire?
Alors, Le plan, j'en ai pas encore. Honnêtement dit, je veux d'abord finir cette dernière plénière convenablement. Pour ne rien vous cacher, après ça, je prends 15 jours de vacances avec mon épouse, qui a quand même aussi vécu avec les conséquences de mon engagement politique pendant très longtemps. Et puis, bon, j'ai le temps de me retourner. Il se fait que le Parlement européen permet à ses députés de continuer à toucher un revenu pendant une période, dans mon cas 15 mois, puisque j'ai 15 ans de service, pour trouver un nouveau job. Et donc, je mettrai ce temps à profit pour me trouver un nouveau job. Mais non, j'ai pas encore de plan arrêté sur ce que ça sera.
Merci beaucoup. Et avant de retourner la parole à Jean-Luc, je vais poser juste la question par rapport aux élections européennes, parce qu'il faut motiver la jeune génération, mais tout le monde, nous sommes la jeune génération à aller voter. Est-ce que vous avez un message pour des électeurs et électrices de leur motiver à participer?
Ben, j'ai envie de dire de manière un peu brutale, si vous vous occupez pas de l'Union européenne, elle s'occupe de vous. Et donc, si vous voulez avoir voix au chapitre, ben, la moindre des choses, c'est d'aller voter. Je suis personnellement un partisan du vote obligatoire. Je pense que en démocratie, il y a quelques éléments qui ne devraient pas être optionnels, mais obligatoires. L'obligation de payer ses impôts, l'obligation de voter, me semble-t-il, sont à la base de tout cela. D'ailleurs, les démocraties, beaucoup de révolutions ont eu pour slogan « pas de taxation sans représentation ». Et donc, en effet, les deux sont tout à fait liés. Et voilà. Et il se fait que l'échelon européen décide de choses de plus en plus importantes pour la vie quotidienne et pour l'avenir de nos sociétés. Et donc, il me semble que c'est une réaction saine de la part de tout un chacun que de s'intéresser aux options qui sont en présence et de faire des choix. C'est ça, une élection.
Alors, Philippe Lamberts, vous êtes député européen depuis 2009, donc depuis 15 ans. Mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Enfin, qu'est-ce qui, au cours de ces trois mandats, quelle action politique, quel résultat vous appréciez particulièrement?
Bon, écoutez, je laisse à d'autres le soin de faire mon bilan. Personnellement, donc j'ai été législateur pendant 5 ans et puis chef de groupe pendant 10 ans. Je pense que comme législateur, précisément, j'ai travaillé sur les matières économiques et monétaires et j'ai contribué, je pense, à crédibiliser la parole des écologistes sur le front économique. Et puis après ça, comme président de groupe, je pense que j'ai donné un visage parmi d'autres. Hein, je prétends pas être le visage, mais un visage à l'écologie politique qui, je pense, était à la fois crédible et désirable. Et donc, je crois que je l'ai prouvé aussi, en tout cas, lors des élections européennes où j'ai concouru en Belgique francophone. Et je dirais que pour ce dernier mandat, ma plus grande fierté est d'avoir réalisé avec mon équipe et une vingtaine d'autres députés la conférence qui s'est passée au mois de mai 2023, qui mettait en débat l'enjeu de la croissance, ou plutôt de repenser notre économie au-delà de la croissance. Ça s'appelait la Beyond Growth Conference, avec près de 2000 participants sur place, des dizaines de milliers en visio. Franchement, de mettre ces débats, mettre ces sujets en débat au cœur du Parlement européen, avec toute une série d'acteurs à la fois scientifiques, économiques, politiques, associatifs, pour moi, ça a été une très, très grande fierté. C'est de faire avancer des idées, en fait. Je me vois comme un pédagogue de la transformation, si vous voulez. Nous sommes face à des transformations, à des besoins de transformation énormes. Et je crois que pour les faire advenir, il faut un minimum de pédagogie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 15 ans.
Un besoin de transformation énorme, peut-être aussi pour l'Union européenne. Le Parlement européen est peut-être très libre d'aborder tous les sujets du monde, mais son pouvoir par rapport aux deux autres pouvoirs de l'Union européenne, la Commission européenne d'une part et les États dans le Conseil européen d'autre part, est peut-être trop faible. S'il fallait changer quelque chose, si on pouvait faire évoluer la structure politique de l'Union européenne, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Boris, vous décevoir, je ne pense pas qu'il faut changer beaucoup de choses à la structure. Enfin, j'ai plein d'idées sur comment on pourra améliorer les structures. Vous savez, le Parlement européen est co-législateur, c'est-à-dire législateur sur un pied d'égalité avec le Conseil, c'est-à-dire les gouvernements des États membres, sur quasi tout. Pas sur tout, mais sur quasi tout. Alors certes, à la différence des parlements nationaux, on n'a pas le droit d'initiative législative, on ne peut pas décider de lancer un projet de directive ou de règlement de notre côté. Mais j'ai envie de dire, beaucoup de parlements, enfin la plupart des parlements nationaux ont ce droit et la plupart, en fait, sont devenus des appendices du gouvernement et n'en font jamais usage. Donc j'ai envie de dire, c'est pas la priorité. Mais la priorité, c'est de faire pleinement usage de tous les droits qui sont les nôtres. Vous savez, dans cette fameuse discussion sur les règles budgétaires, lorsqu'on s'est retrouvé en trilogue, c'est-à-dire en discussion Parlement-Conseil avec présence de la Commission, le Conseil, en l'occurrence par la voix de la présidence belge, est venu en disant « Ouais, vous savez, ça a été très, 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 très difficile de trouver un accord au sein du Conseil. Donc, en fait, pour être honnête avec vous, on peut négocier sur rien. Enfin, sur rien d'essentiel. Donc, éventuellement, sur des éléments décoratifs, mais rien, sur rien d'essentiel. Ne touchez à rien. » La réponse des négociatrices du Parlement européen, ça a été « Ah bon ?» Vous savez, j'aurais été à leur place. J'aurais dit, j'aurais replié mon cahier, j'aurais dit, messieurs, parce que c'était beaucoup de messieurs, il y avait peu de mesdames, messieurs du Conseil, c'est bien gentil, c'est noté, nous rentrons chez nous. Le jour où vous serez dans une posture de négociation, ben rappelez-nous et on discutera. Mais si votre position, c'est de dire on peut négocier sur rien, ben salut, bonsoir. Et comme ça, on peut commencer à se faire respecter. Je suis sûr qu'alors le Conseil se serait dit, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est pressé, on veut adopter ces règles, etc. Moi, j'aurais joué la montre. Mais ce Parlement a une tradition malheureusement fréquente de ne pas se faire respecter parce qu'il ne veut pas assumer ses pouvoirs. Et là, c'est dû à beaucoup de facteurs. C'est dû au fait que, ben, trop souvent, en tout cas, c'était le cas ici, vous aviez deux négociatrices du Parlement européen, l'une étant essentiellement d'accord avec la position du Conseil et l'autre voulant à tout prix un accord. Je lui avais demandé, c'est quoi tes lignes rouges? Et c'est la socialiste Margarita Márquez. Elle m'avait dit, ma ligne rouge, c'est qu'on ait un accord avant la fin de la législature. Vous imaginez bien, si votre ligne rouge, c'est d'avoir un accord à tout prix, ben, en effet, vous allez payer le prix maximum. Ça, c'est évident et c'est ce qui s'est passé. Donc, est-ce que c'est obligatoire? Absolument pas. Je veux dire, vous pouvez élire des députés européens qui ont une colonne vertébrale, mais le problème, c'est que beaucoup d'entre eux, s'ils en ont une, ben, ils sont capables de fléchir assez facilement. Aussi, parce qu'ils reçoivent des consignes, soit de leur parti, soit de leur Premier ministre. Et donc, quand vous pensez que le mandat européen, c'est un mandat de seconde zone, et qu'en fait, la seule chose qui existe, c'est de vivre à Paris, à Rome, à Berlin, et que celui ou celle qui détient les clés de la suite de votre carrière vous fait chanter, ben vous chantez. Et ça, malheureusement, on observe aussi ça au Parlement européen. Pas que, mais ça, on l'observe aussi. Et donc, ça fait que... Et donc, ça, c'est pas institutionnel. C'est pas institutionnel. Je dirais que un des problèmes qu'on a, en tout cas dans certains pays, c'est ce qu'on appelle la particratie. C'est le fait que les listes électorales sont constituées par les présidents de parti ou par un petit comité autour du président de parti. Et donc, ça leur donne un pouvoir sur les élus. D'accord ? Et voilà. Et ça peut faire que les élus, ben, quand bien même ils ont des idéaux, à un moment, ils se disent « Ouais, mais enfin... Si respecter mon idéal, c'est mauvais pour ma carrière, je vais peut-être faire attention à ce que je fais. »
Et justement, vous avez évoqué les valeurs de l'Union européenne, mais parfois, on a du mal à les saisir. Hein. Le premier directeur de Frontex, par ailleurs oui. Mulhousien, est numéro 3 sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes du 9 juin 2024. Et puis, un combat que vous avez mené, c'était aussi une forte réaction lorsque le commissariat à la migration a changé de nom et de devenu le commissariat à la protection du mode de vie européen. Mais c'est quoi le mode de vie européen?
C'est une excellente question et j'ai réagi comme vous. J'ai dit, c'est quoi le mode de vie européen? Il y a un mode de vie européen. Moi, je suis sûr que le vôtre et le mien, c'est pas le même. Je pense que le vôtre et le mien, c'est pas le même. Pour certains, aller faire du shopping en prenant l'avion pour aller à Milan, ça fait partie de leur mode de vie. Moi, j'y penserai jamais. C'est quoi le mode de vie européen? En fait, ça n'existe pas. Ce sont des modes de vie. Justement, la devise de l'Union européenne, c'est l'unité dans la diversité. Donc forcément, il n'y a pas un seul mode de vie européen. Et donc là, on reprend, c'est encore un de ces exemples, où on reprend en fait le langage de l'extrême droite, des nationaux populistes, qui voudraient faire croire en fait qu'il y a un seul mode de vie, qui est d'ailleurs un truc assez fantasmé. Hein, la famille traditionnelle avec l'homme qui va gagner sa vie, la femme qui gère les enfants et le ménage, ces choses-là. Parce que souvent, quand vous leur demandez d'un peu expliciter, c'est ça. Hein, il faut pas aller chercher plus loin, quoi. Hein. C'est le retour aux bonnes vieilles valeurs traditionnelles, mais c'est en plus de ça souvent un passé fantasmé. Parce que c'est un passé qui réécrivent a posteriori. Et donc, non, d'abord, tout ce qui est dans le passé n'est pas à jeter, mais tout ce qui est dans le passé n'était pas bon. Désolé. Le fait de ne pas considérer qu'il y a des limites physiques à la planète ou considérer les femmes comme les inférieures ou les subordonnées des hommes, non. Ça fait partie d'un passé qu'on ferait bien de rejeter. Par contre, il y a des choses, c'est sûr qu'on peut hériter du passé, ça c'est évident, mais en tout cas, la vie en société est quelque chose qui se construit au fil de l'eau. Et dans la diversité, justement, c'est pas le mode de vie européen, mais les valeurs centrales de l'Union, c'est la dignité humaine, c'est le respect de l'égalité entre les êtres humains, c'est le pluralisme politique, etc., etc. sont des valeurs. C'est pas un mode de vie. C'est pas un mode de vie. Et donc, qu'on vienne pas nous prétendre qu'il y a une seule manière de vivre et que tout le monde devrait s'aligner. Parce que ça, j'ai envie de dire, si vous poussez ça à l'extrême, c'est le totalitarisme. Hein. C'est on vous dit comment vous devez vivre. On l'observe dans les États totalitaires. Je veux dire, en Chine, vous savez, avec les applications de reconnaissance du faciès, finalement, on cote le comportement des citoyens. D'accord ? Et donc, en fait, on essaye de pousser... je ne peux même pas les appeler les citoyens, les sujets de Xi Jinping sont appelés, par la pression du parti unique, à se comporter selon un mode de vie unique. Ben ça, honnêtement dit, ce n'est pas le modèle européen, hein. Désolé, mais j'en veux pas de ce truc.
Et on n'y est largement pas, ça c'est sûr.
Tant mieux.
Peut-être pour conclure, l'avenir sera-t-il radieux ou la fin du monde est proche pour vous, Philippe Lamberts?
Ni l'un ni l'autre. Je pense que l'avenir sera d'abord ce qu'on en fait. Donc moi, je suis un volontariste en politique, ni pessimiste ni optimiste, mais volontariste. Il faut que nous prenions notre avenir à bras-le-corps et que nous travaillons. L'issue nous est inconnue. Personne n'a une boule de cristal qui peut décrire où le monde sera dans 10, 20, 30, 50 ou 300 ans, pour pas parler au-delà. Mais par contre, c'est clair que les décisions que nous prenons aujourd'hui influeront sur ce que sera le monde demain. Et donc la résignation, c'est pas mon truc.
Merci beaucoup, Philippe Lamberts, eurodéputé du groupe écolo belge et qui ne se représente pas lors des élections européennes à venir le 9 juin 2024. Merci, Jürgen, à la réalisation. Merci, Lisa, Elena et Anna. Et à bientôt dans le Wunderparlement pour de nouvelles aventures.
Wunderparlement.
Yes, do you have my voice?
Wunderparlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il presidente.
Uccie radio.
Apprendre à faire radio.
Lire radio maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento Europeo de Strasburgo.
Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi, tu peux venir.